Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Tout de suite, les titres. Les FARDC accusés d'ériger des barrières illégales dans le retour au Nord Kivu. Des ONG locales et des leaders communautaires exigent la relève de ces soldats après plusieurs années passées dans la région. La situation dans le retour, nous en parlons aussi dans cette édition avec notre invité. Il s'agit de l'administrateur de ce territoire. Plusieurs véhicules bloqués de part et d'autre de la route Bukavu-Goma vers Kanyuni dans le sud Kivu. Situation consécutive à la pluie diluvienne de mercredi dernier sur Calais. La société civile de Calais interpelle le gouvernement à ce sujet. Et puis, les inspecteurs de l'EPST à Bandunduville appelés à reprendre leurs activités. Appel de l'inspecteur principal de la province éducationnelle du Kwilu 1. C'est à l'issue d'une séance de sensibilisation organisée samedi à leur intention. Madame, Messieurs, bonjour. Avant de développer ces titres, notez tout d'abord cet accident de route qui a coûté la vie à 7 personnes et d'autres blessés au Kasaï oriental. L'accident est survenu aux premières heures de ce lundi dans la vallée de Mia, plus ou moins 20 km de Mbujimayi. D'après la police de circulation routière, un camion a raté la montée de la colline de Mia et s'est renversé dans la vallée. La PCR lie ce drame à une défaillance technique. Esther Ndalafina nous raconte.
Un camion de marque Fuso en provenance de Luputa dans le territoire de Lulu vers Mbujimayi, ayant à son bord une cargaison de maïs, de haricots, des planches et d'autres produits vivriers, aurait raté la montée de la colline de Mia. La police de circulation routière qui s'est rendue tôt le matin sur le lieu du drame affirme que c'est dans sa marche arrière forcée que ce véhicule s'est renversé dans la vallée. Selon toujours la PCR, les chauffeurs, les membres de l'équipage et quelques passagers, tous sont morts sur place. La cabine du véhicule est complètement endommagée. Le bilan provisoire selon la PCR fait état de 7 morts. On dénombre également plusieurs blessés qui ont été conduits dans un centre hospitalier de Mbujimayi. Les dépouilles mortelles ont été acheminées à la morgue de Dipumba. Quelques éléments de la PCR sont déjà déployés sur le lieu pour sécuriser la zone. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, dans le retour au Nord Kivu, au total 15 barrières érigées par les soldats FARDC ont été répertoriées par les organisations de défense des droits de l'homme ainsi que la société civile dans ce territoire. Plusieurs organisations locales ainsi que les leaders communautaires exigent la relève de ces soldats qui ont passé plus de 10 ans dans la région de Rutshuru. Gabriel Ouamenia nous fait le point.
C'est l'ONG Badilika qui a tiré la sonnette d'alarme devant la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC en mission la semaine dernière dans l'est de la RDC. Les représentants de Badilika précisent qu'à chaque barrière, les voyageurs ainsi que les cultivateurs sont obligés de payer la somme allant de 500 à 5000 francs congolais ou en contrepartie les produits des récoltes de leurs champs. Patrick Manouvo.
Parmi les régions où on est en train d'enregistrer la présence de barrières, lorsque le cultivateur quitte son champ, le ministère lui demande quelques points de réponse.
Réagissant à ces allégations, les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 au Nord Kivu parlent des checkpoints Major Ndike Kaiko.
Il ne faut pas finalement faire la confusion entre une barrière et un checkpoint. Ces checkpoints nous ont permis de récupérer beaucoup d'armes et beaucoup d'effets militaires de la part, n'est-ce pas, des groupes armés qui se déplacent dans la zone.
Il affirme cependant que les enquêtes seront menées pour identifier les acteurs de ces tracasseries et les déférer dans les cas échéants devant les juridictions compétentes. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, c'est finalement aujourd'hui que l'arrêt de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu sera prononcé dans l'affaire du prévenu Ntabo Ntaberi Cheka et ses co-accusés contre le ministère public et la partie civile. Après une année d'instruction émaillée des reports en report des audiences, ce procès qui a pris au-delà des 100 audiences a été très suivi par toutes les parties ainsi que par les organisations de défense des droits de l'homme, tant nationales qu'internationales. Dans le couloir de la Cour militaire opérationnelle, où le public attend déjà le prononcé, l'opinion pense que ce procès, qui doit en principe revêtir un caractère d'impartialité dans son arrêt, devra être pédagogique et ainsi servir de modèle pour d'autres seigneurs de guerre actifs dans le Nord Kivu. Rappelons que Cheka et ses co-accusés sont poursuivis pour des crimes graves commis dans le territoire de Walikale entre 2009 et 2014. C'est notamment le viol massif de Luvungi, le recrutement d'enfants, pillage, meurtre, assassinat, ainsi que l'incendie des villages. Lancement samedi à Mbandaka du projet d'éveil communautaire sur le respect de la dignité et des droits des femmes pygmées pendant la pandémie de COVID-19. C'est une initiative de l'ONG Solidarité pour la promotion des femmes autochtones. Elle vise notamment la promotion des droits des femmes et le maintien de leur pouvoir décisionnel, mais aussi l'adoption des comportements responsables de leurs conjoints afin de limiter la propagation du coronavirus dans la province de l'Équateur. Ce projet prévoit en outre une prise en charge des victimes les plus vulnérables. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Pendant l'état d'urgence qui était décrété à la suite de la COVID-19, dans plusieurs ménages en Mbandaka et particulièrement dans des foyers de peuples autochtones, les femmes ont été victimes de violences conjugales de tout genre, comme le témoigne Pierre Bokono, vivant dans la communauté autochtone de la ville.
Oui, état que PA, je pense que c'est nous, les hommes, qui violent vraiment. Nous obligeons les femmes à faire les violences. Même les femmes aussi, elles acceptent ça de savoir. Il faut qu'on sensibilise nos frères hommes pour laisser ce comportement aller encore continuer de violer les femmes.
Malgré la fin du confinement, a constaté l'ONG SPFA, ces cas de violence sur des femmes autochtones continuent. Voilà pourquoi, avec ses partenaires, dont des chefs de quartier et commissaires de police, la structure entend mener une campagne de sensibilisation et d'assistance aux victimes de ces violences. Ce qu'indique la chargée de communication de SPFA, Gisèle Wengela.
Nous allons identifier ces femmes les plus vulnérables dans les 8 quartiers de la ville ciblée et après, nous allons descendre pour les aider avec des kits hygiéniques. Et puis, nous aurons aussi une activité de mettre en place un système d'alerte. Nous aurons à former les relais communautaires dans les différents quartiers. C'est eux qui vont faire la sensibilisation.
Alors que la police a accepté de disposer un numéro d'appel téléphonique afin de faciliter le système d'alerte. Mbandaka, Paul-Richard Manenguet, la Radio Okapi.
Direction le sud Kivu, comme dit dans le sommaire, dans le territoire de Calais, le trafic est toujours interrompu sur la nationale numéro 2 qui relie Bukavu à Goma au niveau de Kanyuni dans le village de Bushushu. Une situation qui dure depuis 5 jours après une forte pluie qui s'est abattue dans la soirée du mercredi dernier sur Calais. Les véhicules restent bloqués de part et d'autre. La société civile locale appelle le gouvernement à trouver une solution urgente à ce problème compte tenu de l'importance de cette route. Cynthia Bachizi, reportage.
C'est le ruissellement des eaux dans les hauts plateaux de Kalehe qui a entraîné de couler de boue sur la route nationale numéro 2 à Kanyuni dans le village de Bushushu, ce qui a rendu ce tronçon impraticable. Une délégation de l'office des routes est toujours attendue sur place pour évaluer les dégâts et entreprendre des travaux de réhabilitation. Dafin Birimbi, président de la société civile de Kalehe.
Nous avions alerté le gouvernement de province de dépêcher une équipe sur place pour évaluer les dégâts et voir comment on pourra libérer la route et que les travaux puissent commencer pour qu'on puisse voir comment les usagers peuvent aussi commencer à circuler librement sur cette route. Ça, c'est une route nationale numéro 2 qui relie les deux provinces, pas seulement les deux provinces, mais aussi d'autres pays voisins. Et ça joue un rôle très important sur la situation socio-sécuritaire du territoire de Calais et de la province. C'est pourquoi nous demandons que les travaux puissent commencer d'un moment à l'autre. Et nous avions alerté également les humanitaires via la coordination humanitaire au Tchassi de Kivu et voir comment les humanitaires peuvent venir en aide des familles qui ont perdu de l'air, des actifs agricoles, les maisons et les écoles qui ont été endommagées.
Outre les nombreux dégâts matériels, les éboulements de terre de la semaine dernière à Kalehe ont fait 4 victimes, dont 2 portées disparues. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Par ailleurs, la ville de Boma au Congo central connaît une pénurie d'eau potable depuis près d'une semaine. À la base, une panne sur un câble de la SNEL. La régie des eaux, qui n'a qu'un seul groupe de secours, n'essaie pas pomper l'eau dans tous les réservoirs de la ville. Alain Mambimbi, député provincial élu de Boma, qui livre l'information, indique que plusieurs personnes, majoritairement des enfants, sont mortes par noyade en cherchant de l'eau dans le fleuve. Pour résoudre définitivement ce problème qui survient chaque année à Boma, cet élu sollicite auprès des autorités tant nationales que provinciales un appui logistique conséquent en faveur de la SNEL et de la régie des eaux dans la ville de Boma. Le député provincial Alain Mambimbiwan est au micro de Nana Plurich Mambo.
Que ça fait presque une semaine qu'une bonne partie de la ville de Boma n'a pas d'eau potable. Ce serait apparemment à cause d'une panne électrique sur un câble de la SNEL qui permet à la régie des eaux d'alimenter une bonne partie de la ville de Boma. Mais la régie des eaux n'ayant pas de groupe approprié pour pallier ces défaillances techniques de la SNEL ne peut donc plus desservir la population bomatracienne. Que ce soit à la cité ou au centre-ville, la population est obligée d'aller dans la rue pour espérer trouver de l'eau en parcourant plusieurs kilomètres et parfois jusqu'à très tard. Je ne vous parle même pas de tous les risques que cela entraîne et les problèmes que ça peut engendrer. Mais le plus grave dans tout ça est que j'apprends avec grande tristesse qu'il y a déjà plusieurs personnes personnes qui sont mortes par noyade, principalement des enfants, en allant se laver dans le fleuve ou en allant tout simplement chercher de l'eau à cause de ce problème. Donc c'est bien beau de dire que le problème va être réglé, mais ce problème revient chaque année depuis 2016. Je demande donc aux autorités compétentes de la province et de Kinshasa de pouvoir appuyer la Régie des eaux et la SNEL Boma pour régler ce problème une fois pour toutes et pas juste trouver un semblant de solution temporaire qui reviendront quelques mois plus tard, car c'est plus de 80% de la population boumatracienne qui n'a ni courant ni eau pendant toute cette période.
Interrogé à ce sujet, le maire de Boma, Madame Marie-Josée Nyongo-Swami, a déclaré qu'un seul décès est enregistré suite à ce manque d'eau. D'après elle, la panne sur le câble de la SNEL a été réparée hier soir, mais à cause de la pluie qui s'est abattue vers minuit, le même câble réparé a encore une fois été endommagé au même endroit. Merci de nous écouter à Bandunduville. Ici, l'inspection principale de la province éducationnelle du Kwilu 1 a organisé samedi une séance de sensibilisation à l'intention de tous les inspecteurs après la suspension de la grève des enseignants. Selon l'inspecteur principal AI du Kwilu 1, le souci est d'améliorer leur façon de travailler. Plus d'une centaine d'inspecteurs ont pris part à cette séance. Nzonzi Kilendak Zenon, inspecteur principal provincial adjoint du Kwilu 1, explique au micro de Irène Boma.
Aussitôt que nous étions informés que la grève était suspendue, nous avons organisé cette activité pour redynamiser notre inspection, du moins l'activité inspectorale, pour demander aux inspecteurs de faire désormais leur travail, de rentrer à leur poste d'attache pour faire les activités qui leur sont demandées. Voilà le bien fondé, l'objectif de cette séance, cette activité. C'est une séance de sensibilisation, de réarmement moral et professionnel de tout le monde pour qu'ils rentrent sur le terrain, qu'ils fassent le travail, surtout que toute la documentation, tous les plannings d'activité leur avaient déjà été donnés pour qu'ils fassent leur travail. Nous sommes derrière l'approche de la qualité de l'enseignement. Nous poursuivons justement ce processus de la qualité de l'enseignement. Je pense que nous devons chercher à améliorer notre travail et avoir un inspecteur de qualité aussi pour notre enseignement. Que nous allons faire notre mieux pour améliorer notre travail.
Enseignement toujours, au Kasaï central, plusieurs dizaines des finalistes du secondaire ont réalisé un pourcentage élevé à la dernière session de l'examen d'État. Cependant, ces lauréats redoutent de subir le sort de la plupart de leurs aînés qui n'ont jamais été alignés aux bourses d'études octroyées par le gouvernement congolais. C'est ainsi qu'ils interpellent le gouvernement provincial, national et même d'autres bienfaiteurs à s'occuper de leur situation en vue de leur permettre de poursuivre leurs études. Je vous propose de suivre tour à tour trois d'entre eux au micro d'André Kambala.
Josephine Kankungenshai, j'ai obtenu mon diplôme avec 88%. Je vais faire appel au gouvernement congolais d'accomplir ses promesses comme il nous avait promis les bourses. Nous avons réalisé un grand pourcentage. Nous voulons que le gouvernement nous encourage à nous donner les bourses.
Kabasse l'input s'arrive. J'ai obtenu mon diplôme avec 93%. Si je me tiens devant ce micro, c'est pour rappeler aux autorités provinciales parce que depuis que nous avons obtenu ce pourcentage, nous voyons aucun mouvement. Le gouvernement provincial garde toujours le silence. Jusqu'alors, nous les interpellons toujours. Parce que si la province ne fait aucun mouvement, même le niveau national ne peut rien faire pour nous. Que les autorités de la province nous appellent, nous accueillent et à travers eux, nous pouvons être connus même au niveau national.
C'est Sephora Ngalula. J'ai obtenu mon diplôme avec 88%. Je rappelle à la première dame de respecter sa parole. Elle nous avait promis des bourses. C'est elle qui avait lancé que si quelqu'un obtient son diplôme avec 85, elle aura sa bourse. Aujourd'hui, nous avons obtenu plus de 85. Nous voulons qu'elle puisse nous prendre en charge, qu'elle respecte sa parole.
Actualité internationale. L'ancien président français Nicolas Sarkozy sur le banc des accusés. Ce procès dans l'affaire dite des écoutes s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Sarkozy est jugé pour corruption et trafic d'influence, bien décidé à laver son honneur dans ce procès qui doit durer 3 semaines. Le chouchou de la droite reste soutenu par son camp. Élections au Burkina Faso. Les Burkinabés étaient hier aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. Le vote s'est déroulé dans le calme sur l'ensemble du territoire, même si plusieurs bureaux de vote n'ont pas ouvert à la suite d'une menace sécuritaire. Le président de la CENI a déclaré plutôt que des difficultés ont été constatées sur le terrain, notamment le problème sécuritaire dans certaines localités de l'Est et du Sahel. Dans la région de l'Est, par exemple, 224 bureaux de vote n'ont pas ouvert sur un total de 330 1945 et c'est dans cette province que des groupes d'hommes armés ont menacé de représailles les populations de plusieurs villages si elles se rendaient aux urnes. On a dit à des populations que celui qui plonge son doigt dans l'encre indélébile peut dire adieu à son doigt, a souligné le président de la CENI.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu. La tension reste perceptible entre les communautés Nande et Hutu dans le territoire de Rutshuru. C'est depuis les derniers incidents du 24 au 27 octobre dernier qui avaient fait au moins 15 morts dans les deux communautés. Depuis, la MONUSCO et le gouvernement provincial du Nord Kivu s'emploient à restaurer la cohésion sociale dans le milieu. L'administrateur du territoire de Rutshuru est notre invité. Il parle ici de l'évolution de la situation dans son entité. Justin Mukanya est avec Bernardin Nyangi.
Monsieur Justin Mukanya, bonjour.
Bonjour, Monsieur Bernardin Nyangi.
Vous venez d'accueillir une délégation mixte du Conseil provincial de sécurité et aussi la MONUSCO. Actuellement, comment on peut évaluer la situation dans les territoires de Rutshuru?
La visite de ce jour fait suite à la visite de Madame la représentante du Secrétaire général des Nations Unies, Madame Leila Zerougui, qui a été à Rutshuru, je crois, le samedi passé. Nous avons fait le contour de la situation sécuritaire avec elle. Elle m'a promis qu'elle enverrait une autre délégation plus technique pour essayer de revenir sur toutes ces questions sécuritaires. Voilà, la délégation est arrivée. Elle est conduite par son excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'Intérieur. Il est accompagné dans sa suite du chef des de la MONUSCO, du général Sokola II et d'autres personnalités. Comme vous le savez, la situation sécuritaire en territoire de Rutshuru commence à se stabiliser. Mais il y a un mois passé, la situation a été extrêmement rouge. Les communautés locales se sont affrontées. Il y a eu beaucoup de cas de morts dans les deux camps. Et il s'est agi essentiellement des communautés Nande et Hutu. Voilà, aujourd'hui, l'autorité provinciale m'a accompagné dans cette stabilisation et je crois que les choses semblent aller dans le bon. Mais là, nous sommes en train de demander que ce n'est qu'une accalmie. Peut-être précaire, mais il faut que beaucoup d'efforts soient fournis. Nous sollicitons l'accompagnement de notre gouvernement. Nous souhaitons également l'accompagnement de notre grand partenaire, qu'est la MONUSCO, pour qu'on stabilise cette accalmie qui semble déjà pointer à l'horizon pour que les populations reviennent à vaguer à leurs occupations quotidiennes.
Pourquoi les deux communautés? Est-ce qu'il y a une raison?
Écoutez, vous savez, les communautés Nande et Hutu ont vécu dans ce territoire depuis de l'Istre. Quand vous êtes à Kiwanja, à Kinyandoni, partout ailleurs, la population n'a pas de problème. Vous trouvez des gens qui vous disent, bon voilà, nous avons été nés dans ce village, nous avons grandi avec tel, on faisait le chemin pour aller à l'école, et on fréquentait les mêmes marchés, les mêmes ruisseaux, mais aujourd'hui, ces communautés s'affrontent. Mais quand nous cherchons à savoir, à entrer en profondeur, à crever l'abcès, on constate qu'il y a certains leaders locaux, il y a certains politiciens en mal de repositionnement qui cherchent tout simplement à opposer les communautés pour tirer des dividendes.
Et à ce stade, est-ce que le dialogue social tel que demandé par certaines personnes pourrait être une solution?
Oui, le dialogue social, je l'ai souligné, est une des grandes solutions. Mais le dialogue doit concerner d'abord le politique avant d'en arriver à la base. Il ne sert à rien d'organiser le dialogue pour des communautés locales au niveau de la base si le politique lui-même n'a pas été intéressé par le même dialogue. Il faut commencer par le sommet. Et alors, venir à la base. Puisque si le discours change au niveau du sommet, eh bien, la base va emboîter les pas et les choses peuvent se normaliser.
Le sommet, ça veut dire les politiciens du milieu?
Oui, je reconnais qu'il y a des grands politiciens de ce territoire qui nous accompagnent et qui, dix jours au jour, se battent pour que la sécurité revienne, que la stabilité se consolide.
Mais cela aussi ne résoudrait pas le problème des déplacés qui sont ici et des groupes armés.
Le problème des déplacés, ça c'est un autre problème. Je crois que si tous ces politiciens se conviennent, ils se mettent ensemble, le problème des déplacés va devoir trouver une solution.
Voilà. Les groupes armés?
Les groupes armés, je l'ai souligné, l'activisme est avéré. Il faut que les communautés travaillent aussi. Puisque les groupes armés que nous avons ici sont des groupes armés à caractère communautaire. Ces groupes armés prétendent protéger leur communauté. Est-ce qu'ils les protègent? Non. Il y a des villages où vous trouvez un groupe armé d'une communauté donnée et chaque jour il y a des tueries, il y a des massacres de cette même communauté-là. C'est pour vous dire que cette allégation de dire que nous sommes un groupe armé pour protéger notre communauté, elle est fausse. C'est tout simplement des gens qui cherchent à s'enrichir sur le dos de la population et quand il y a résistance, on tue ces pauvres paysannes, on tue ces pauvres mamans, ces pauvres papas. Il y a des cas de viols qui sont enregistrés, c'est fort dommage.
Et en quoi est-ce que le conflit foncier aussi pourrait avoir un certain impact dans ce conflit-là?
Vous savez, le territoire de Routchour compte 5289 km², je l'ai dit dans la salle, et les 3000 km sont occupés déjà par le parc national de Virunga. Et Routchour est un territoire coincé entre le parc national de Virunga, l'Ouganda, le Rwanda et le lac Édouard. Et donc, un territoire qui n'a pas la possibilité de s'étendre. Et aujourd'hui, avec la pression démographique que nous avons à Routchour, autour des 1 500 000 habitants, et que les terres, depuis qu'elles ont été créées par le bon Dieu, elles sont ce qu'elles sont. Et donc, il n'y a pas de rapport entre cette pression démographique et cette terre. C'est pourquoi il y a ce conflit perpétuel de pouvoir accéder aux champs, de pouvoir accéder à la terre. Et donc, c'est une question qui doit être discutée pour que les terres qui sont disponibles puissent être équitablement réparties et gérées avec efficience.
Merci, Latte, merci.
C'est moi qui vous dis merci.
Justin Mukanya, administrateur du territoire de Routchouru, était avec Bernard Denyangi. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Coordination de Élisée Chikota Chivueta. Jean-Claude Nsiala était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.